Le seul problème, si on veut légiférer, c'est comment on définit une liste communautaire.
Moi, un rendez-vous.
Rendez-vous.
Bonsoir.
Bonsoir.
Nouveau.
Ce soir.
Eh bien justement, on va tenter d'y voir plus clair. Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous, c'est le NRV, le magazine de la bonne soirée qui fait coup double chaque soir en deux temps et à deux vitesses, puisque vous pouvez nous podcaster dès 18h avant même la diffusion antenne de 22h à minuit. La première partie est consacrée à l'actualité et à la musique live, la deuxième heure aux archives extraordinaires de France Inter. Ce soir, l'actu, c'est élections municipales, place au vote communautaire. Demain, les élections municipales et on nous annonce une cinquantaine de listes communautaristes, parmi lesquelles l'Union des démocrates des musulmans français, le parti Égalité et Justice issu de la communauté turque, entre autres. En plein débat sur les questions de laïcité, des politiques montent au créneau, exigent des mesures pour contrer, je cite, ce fléau. Jusqu'au ministre chargé des collectivités locales qui a ouvert le débat sur des conseils municipaux totalement neutres religieusement. Christophe Bourseiller, le titre pour cette émission, pour vous,
écoutez,
ce serait
des titres, il faut que ça soit un peu sérieux quand même. Non, Laurent,
j'espère
franchement,
bien, oui.
Il faut y voir plus clair et entendre plus distinctement. Et donc, municipal, place au vote communautaire, point d'interrogation. Tous en communauté, ça c'est un peu plus...
Ah, ça c'est votre côté, je suis dans les années 50.
Question. Demain, tous communautarisés, point d'interrogation, ou alors un peu plus psychédélique, communautari.
J'ai pas compris.
Bah, c'est pas grave. Alors,
très bien. Personne, quelqu'un a compris?
Non, personne.
Mieux,
c'est pas grave. Ça vaut peut-être mieux.
On peut nous joindre.
Ça vaut mieux.
Et sur le plan musical, ce soir, Marion Guilbeault, pour finir cette première partie.
Eh bien, après avoir fait chanter le cinéma français, il revient avec un nouvel album beaucoup plus connecté au monde réel. C'est Alex Baupin. Il est en live à la fin de l'émission.
Et puis, autre temps, autre parole, ce sera le NRV La Suite, France Inter plus de murs de Berlin, avec les rediffusions des rendez-vous avec X ce soir. Expion toujours, espion un jour. Günther Guillaume, saison 1. Allez, le NRV, c'est parti.
France Inter, le nouveau rendez-vous, Laurent Goumard.
Et avant de vous lancer dans votre éditorial, Christophe Bourseiller, je vais vous présenter nos invités. Non, éditorial. Najwa El Haïté, vous êtes docteur en droit public, militante associative, auteur de Laïcité et République, considération sur la République française. Dieu sait que vous êtes donc au centre du débat ce soir, aux éditions L'Harmattan. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Jean-Pierre Sakoun, vous êtes président du comité Laïcité et République. Bonsoir.
Bonsoir.
Najib Azergui, vous êtes fondateur de l'Union des démocrates musulmans français. Bonsoir à vous.
Bonsoir.
Et enfin, Raphaël Lioger, vous êtes philosophe et vous co-signez Manifeste métaphysique aux éditions Les Liens qui libèrent. Bonsoir.
Bonsoir.
Il est temps de se lancer dans cet ébouriffant.
Il est temps de plonger dans
l'éditorial,
Christophe Bourseiller. Donc, vous savez, Laurent, qu'on soit d'accord ou pas avec l'hypothèse de listes communautaires qui s'adresseraient spécifiquement à nos compatriotes d'origine turque, par exemple, ou de confession musulmane, dans le but de se constituer en lobby, on est forcé de constater une évidence criante, Laurent, quand on se promène dans certaines villes ou dans certains quartiers, le communautarisme, il est déjà là. Nous vivons dans une société, Laurent, constituée d'un grand nombre de micro-sociétés parallèles qui se côtoient en s'ignorant. Alors certaines de ces micro-sociétés sont religieuses, d'autres ethniques, peu importe au fond. Nous voyons aujourd'hui les États-nations se métamorphoser, bien loin d'aller vers un monde unifié, ce que les anarchistes nommaient au XIXe siècle la patrie-terre. C'est joli, non ? Nous allons vers un patchwork dans lequel 1000 identités cohabitent. Du coup, Laurent, comment s'étonner de voir surgir lors d'élections des listes, des partis communautaires ? Najib Azergui, vous êtes le fondateur de l'Union des démocrates musulmans français qui crée aujourd'hui la polémique et en présentant donc une cinquantaine
bien
de listes
nous,
aux élections municipales. Alors pourquoi avez-vous créé ce parti?
Alors,
En 2012. 900 adhérents je crois actuellement,
ouais,
c'est
à peu
ça
près, ouais. Pas beaucoup d'adhérents, mais effectivement l'UDMF a un peu plus de 6 ans maintenant et c'est parti sur un constat un peu tragique qui consiste tout simplement à montrer que ces dernières années, le musulman, et là je ne parle pas de la sphère cultuelle, je pense à la représentation du musulman. Le musulman est devenu ces dernières années un argument malheureusement électoral. On le sort à chaque élection majeure, chaque rendez-vous important de la vie politique de notre pays, et ça depuis maintenant un peu plus d'une dizaine d'années. Et aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, nous sommes à quelques mois des élections municipales et en ce moment, le débat, il est quand même extrêmement hystérisé par cette question autour des musulmans. Et clairement, vu que c'est devenu un problème politique et non pas un problème communautaire ou un problème religieux, il m'a semblé important d'y répondre par une réponse politique. Donc l'UDMF n'est pas un parti confessionnel. Je pense qu'il est important aussi.
Pourtant, ça s'appelle l'Union des démocrates musulmans.
Par rapport à ce que je viens d'expliquer juste avant, à savoir que le musulman étant devenu un problème politique, et n'est pas un problème religieux, eh ben, il faut y répondre également par une réponse politique. Et, alors, ce procès de communautarisme qu'on nous fait aujourd'hui, ben, c'est un petit peu toute l'histoire de personnes comme moi. À partir du moment où, dans les années, je crois, dans les années 2000, ont commencé à émerger les premières listes citoyennes, où il n'y avait pas du tout le mot musulman, mais on avait des personnes avec un patronyme qui n'était pas un patronyme dit de souche, une appellation quand même de l'extrême droite, et ben, elles ont toutes été taxées de listes communautaires. Donc, c'est un échec de nos politiques. Et clairement, aujourd'hui, bah, il faut y répondre par la politique et éviter, et c'est vraiment notre objectif, les amalgames. Donc, je préciserai quand même, puisque c'est quand même le but aussi du sujet, nous ne sommes pas du tout un parti confessionnel. Pourquoi j'insiste sur ça? C'est parce que je ne suis pas un imam, je ne suis pas un guide spirituel. L'UDMF, on n'est pas du tout compétent là-dessus. Ça, c'est très très important. On est des citoyens et il faut du coup rappeler une chose, c'est que tous les partis, et là malheureusement depuis la gauche et même l'extrême gauche, ont essayé ces dernières années de dépasser Marine Le Pen par la droite. Et stratégiquement, je pense que ça, il faut aussi l'analyser, c'est que on a vu un électorat populaire qui est parti ces dernières années vers l'extrême droite. Et donc aujourd'hui, c'est une course à la récupération de cet électorat-là. Et donc, à ce titre-là, on voit bien que malheureusement, tous les débats ces derniers temps ont été islamisés. Et notre objectif à nous, c'est de désislamiser ces débats-là.
Jean-Pierre Sakoun, en tant que président du comité Laïcité République, comment vous revoyez l'émergence justement de ces listes communautaire, entre guillemets, puisque le terme n'est pas revendiqué par Najib Azergui?
Bah, écoutez, deux aspects. D'abord, sur les listes elles-mêmes, lorsque le religieux commence à s'insinuer en politique, on peut s'inquiéter. Il est certain que la création de listes qui se réfèrent à une religion renverra obligatoirement à l'opposition entre une vision théocratique du monde et une vision laïque et républicaine.
Il existe bien les démocrates chrétiens.
Il existait bien les démocrates chrétiens, nous leur faisions les mêmes critiques à l'époque.
Ils existent toujours.
Ils existent toujours. Deuxièmement, sur ce que vient de dire mon interlocuteur, un problème, le musulman, on est en pleine essentialisation. Qu'est-ce que ça veut dire le musulman? Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, il y a des musulmans et il y a des femmes musulmanes. Deuxièmement, il y a des musulmans qui ne se reconnaissent absolument pas dans la description qu'en fait Najib Azergui. Et donc, que voulez-vous qu'on puisse répondre à le musulman? Ça n'a pas de sens. Il y a des Français, certains de confession musulmane, certains qui ont une pratique éphémère, d'autres qui ont une pratique beaucoup plus profonde. La question fondamentale, c'est bien de séparer l'islam politique et l'islamisme de la pratique d'une religion comme une autre dans l'espace français. Or, ce que fait Najib Azergui en prenant cette position, c'est qu'il essentialise, qu'il communautarise tous les musulmans, tous les Français de confession musulmane, pour en faire une seule phalange qui serait soumise au joug de la République.
Najib Azergui, vous allez avoir le droit de réponse, mais tout de suite, peut-être un commentaire de Najwa El Haïdé.
Je vais intervenir en tant qu'élue. Tout d'abord, comme vous le rappeliez, je suis adjointe au maire en charge de la culture à la ville d'Évry-Courcouronnes. Et on peut constater, force est de constater qu'à chaque veille d'élection municipale, eh bien, il y a des regains de revendications communautaires d'une minorité. J'insiste, une minorité. Et vous avez, il ne faut pas l'ignorer, aussi des maires qui surfent sur cela, qui font du clientélisme et qui répondent à ces revendications. Exactement, à gauche comme à droite. En effet, on y reviendra. Concernant la liste de Monsieur Najib Azergui, en soi, juridiquement, elle n'est pas illégale. On a fait tout un buzz, voilà. Mais moi, personnellement, je l'ai déjà dit, je me présente plus comme républicaine que comme appartenant à une confession,
musulmane, je suis de confession musulmane, mais moi, je me définis pas avant tout comme ça, je me définis avant tout comme citoyenne française, et ces listes, je pense que elles se trompent, je m'en explique. Pour moi, il n'y a pas de communauté musulmane. La communauté musulmane est un fantasme. Et sans dénigrer ce que fait Najib Azerghi par rapport à son engagement, hein, qui est aussi politique, les faibles scores le prouvent. Les Français de confession...
Il faut quand même faire 40% à Maubeuge. Hein.
C'est ça, oui, mais dans certains quartiers, le taux d'abstention était énorme. Dans un bureau, le taux d'abstention était important. Donc tout ça pour vous dire que, j'insiste, il n'y a pas de communauté musulmane et les Français de confession musulmane ont des revendications plus citoyennes. Ils s'inquiètent de l'avenir de leurs jeunes, de la santé, c'est ça leur priorité.
Mais j'ai l'impression, j'ai lu un petit peu justement les sept, c'est pas les sept péchés capitaux, c'est les sept défis capitaux de la liste de Najib Azerghi. Il se préoccupe d'écologie aussi, il se préoccupe de non-assistance aux migrants, c'est-à-dire exactement. Pas simplement quelque chose qui serait renfermé sur le fantasme d'une communauté musulmane.
Alors, justement, c'est merci de rebondir là-dessus. Je pense qu'on essaye d'essentialiser l'UDMF par rapport justement à ce mot musulman. Et ça, c'est très très important. Et d'ailleurs, je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être partagé là. C'est que le musulman aujourd'hui, malheureusement, et c'est une conséquence, c'est qu'il a été essentialisé dans la société. Il est beaucoup plus complexe. Et je suis entièrement d'accord. Je ne veux pas être reconnu exclusivement pour le fait que je suis musulman. Sauf que on n'arrête pas de nous renvoyer forcément à ça. À partir du moment où on a un patronyme qui n'est pas celui de la norme. Et donc. Véritablement, je pense que il ne faut pas se tromper de choses. Et sur les scores extrêmement faibles que j'ai entendu tout à l'heure, faut simplement se rappeler une chose qui est quand même importante dans notre pays, c'est que nous n'avions pas de bulletin de vote durant les élections européennes. Donc le fait d'avoir réuni plusieurs dizaines de milliers de citoyens dans les urnes de la République, qui ne sont pas exclusivement musulmans, et en tout cas le vote étant secret, on ne peut pas l'affirmer. Mais en tous les cas, je pense que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les personnes qui se sont exprimées ont téléchargé notre bulletin de vote, l'ont imprimé et ont été ensuite le poser dans les urnes de la République. Donc on voit bien que les pics qu'on a enregistrés aujourd'hui, si nous avions eu la possibilité de pouvoir avoir des bulletins de vote sur l'ensemble du territoire national, forcément, les scores ont été beaucoup plus importants et je pense que ça n'a pas non plus échappé à nos opposants politiques qui essayent aujourd'hui de nous censurer et de nous interdire.
Mais Raphaël Liogier, qu'est-ce que vous pensez par exemple de cette déclaration de Xavier Bertrand récemment à propos du parti de Najib Azerghi qui dit « l'islam politique est en train de vouloir s'implanter ».
Moi, je crois aujourd'hui qu'on dit surtout un peu tout et n'importe quoi, justement parce que, regardez, il a été dit quelque chose de très clair dans cette émission, c'est qu'il n'y a pas de communauté musulmane, enfin, c'est un fantasme. Pourtant, lorsqu'on prononce le mot communautarisme aujourd'hui, et y compris des membres du gouvernement, immédiatement, il se réfère à l'islam. Donc, je crois qu'il faut sortir. Vous savez, il y avait ce livre de Jean-Paul Sartre, Réflexion sur la question juive. Il parlait dans son livre de ce qu'il appelait le juif métaphysique. Hein. Toute chose égale par ailleurs. Lorsqu'il parlait de juif métaphysique, il voulait dire le juif n'est plus du tout cette diversité que sont les juifs. Et bien, aujourd'hui, on a un musulman métaphysique. Et donc, je dirais que lorsqu'on parle de communautarisme et lorsqu'on parle de parti communautariste, au sens négatif du terme, il faut distinguer deux choses. La première chose, c'est est-ce que c'est un parti qui n'est là que pour favoriser, qui ne s'intéresse qu'aux intérêts d'une communauté au sens strict? Là, c'est du communautarisme. Mais ça peut être un communautarisme inattendu. Hein. Ça peut être le communautarisme d'une classe au sens restrictif du terme. Il n'y a pas de projet politique de grande envergure. Moi, j'aimerais bien que les farouches défenseurs de la laïcité relisent leurs textes. C'est pas un service à rendre à la laïcité, à la République, de ne pas lire les textes, de ne pas lire ce qu'il y a écrit, par exemple, dans la loi de 1905, à savoir, c'est la liberté de culte et d'expression, pas seulement d'expression dans sa salle de bain et dans son intimité, d'expression de ses convictions aussi dans l'espace public pour les partager dans la mesure où on respecte celles des autres.
Tout de suite, on va faire d'abord une pause musicale avant de reprendre le débat. On a connu Christine and the Queens. Aujourd'hui, c'est Loose and the Yakuza. Prochain invité d'honneur des transmusicales de Rennes ce soir, c'est son énervé.
Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ce n'est pas un drame, c'est je ne fais plus la fête. Ou si sereine, ou fais-tu juste la guerre? La vie est une chienne qu'il faut tenir en laisse. Vivre me hante, tout ce qui m'entoure m'a rendu méchante. Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. Blague à part, devient loup sa peur.
seul, seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si jamais je freine et que je ne fais plus de scène, laissez-moi à l'arrière pour qu'à la source je me baigne. Ma blessure saigne et le sang monte à la tête. Je reste la même et ce quoi qu'il advienne. Au plus j'ai la haine, au plus ils me font de la peine. Ma peau n'est pas noire, elle est couleur ébène. Douce et sereine, où fais-tu juste la guerre? Tu n'es pas parfaite, ton erreur reste humaine. Seul, 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 je veux être seul. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Au plus j'avance, au plus je les devance. Tant pis si tu ne suis pas la cadence. Je ne sais même plus sur quel pied je danse. Encore un acte trop frais, ça dérange. La mélodie me berce et me ronge. Chaque mot me perce et donc je plonge dans les profondeurs de mes songes. Je nage, me noie dans la pénombre. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais, je vivrais seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Na, 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 na. Seul, 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 je veux être seul.
Rendez-vous.
Je vous demande de prendre des dispositions législatives ou réglementaires, et je les soutiendrai, pour interdire qu'aux prochaines élections municipales, il y ait des listes communautaristes.
Le nouveau rendez-vous, on a laissé prospérer un communautarisme par laxisme.
Les Républicains annoncent le dépôt d'une proposition de loi.
Il n'y a pas la place en France pour le communautarisme.
Moi, j'en ai ras-le-bol que les religions interfèrent avec le champ politique.
Je suis, par définition, contre toute forme de liste communautaire.
Et selon le service politique de France Inter, une quinzaine de listes seraient dans le viseur du gouvernement, dans les banlieues de Lyon, de Strasbourg ou de Paris.
Hein, comment on la définit, cette liste communautaire? Moi, j'aimerais bien savoir.
Le conseil municipal, ça ne sera jamais un espace de neutralité politique, mais ça peut être un espace de neutralité religieuse, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Ça, c'est une proposition qui est sur la table.
Laurent Goumard.
Avec par ordre d'apparition dans ce montage, Xavier Bertrand, Rachida Dati, Bruno Retailleau, Yannick Jadot, Raphaël Glucksmann qui parlait deux fois, et Sébastien Lecornu, notre ministre chargé des collectivités territoriales. Crispation totale des politiques quand on parle de liste communautaire. On est dans le débat avec Najwa El Haïté, Jean-Pierre Sakoun, Raphaël Lioger et Najib Azergui. Vous reprenez la main, Christophe Bourseiller?
Ben oui, parce que effectivement la question c'est est-ce que la vie politique va évoluer en fonction de la présence et l'apparition des listes communautaires qui sont finalement de plus en plus nombreuses. Il y a eu une tribune libre d'André Versailles, l'éditeur dans le Figaro, il y a quelque temps, qui disait « Face à l'islam, la gauche est prisonnière d'une forme de mansuétude imbécile ». Vous êtes d'accord, Jean-Pierre Sakoun, avec cette vision aujourd'hui?
Pas avec la manière dont c'est formulé, mais je voudrais quand même revenir sur ce qu'a dit Raphaël Lioger. Parce que Raphaël Lioger fait partie de ces gens qui, depuis 30 ans, jettent la confusion sur la laïcité. La première confusion, c'est communauté-communautarisme. Nous vivons tous dans des communautés. Nous sommes tous membres de communautés. La différence entre la communauté et le communautarisme, c'est le moment où la communauté veut imposer à l'ensemble
de l'espace public. C'est très exactement ce que j'ai dit, c'était pas
confus. Non, c'est pas du tout ce que vous avez dit. D'autant moins que vous avez ensuite fait un parallèle entre ce que seraient des convictions politiques et ce que seraient des convictions religieuses. Mais la différence fondamentale, c'est l'essentialisation. C'est quand vous avez des convictions politiques, vous pouvez voter pour quelqu'un d'autre le coup d'après et en changer. Quand vous avez des convictions religieuses sur lesquelles on vous essentialise en disant le musulman, vous n'en changez pas. Donc sur ces questions-là, il faut être un petit peu précis. Quant à la loi de 1905, si vous voulez, je peux vous la réciter, vous aussi. Alors on peut s'amuser à ça si vous en avez envie.
Je rappelle que vous êtes président du comité laïcité républicain. Je pense que c'est le sujet.
Quand M. Azergui dit « nous sommes un parti généraliste », je suis allé faire un petit tour sur le site, je suis allé lire un petit peu des choses. Alors il y a des choses qui n'y sont plus, peut-être parce qu'on veut plutôt les montrer. On veut plus trop les montrer. Mais quand on lit que le parti UDMF veut dissoudre les associations aux médias coupables d'islamophobie, encourage la finance islamique, veut faire de la France un leader mondial des produits halal, considère l'interdiction des signes religieux à l'école comme une loi discriminatoire, et que la revue de l'UDMF a soutenu Tariq Ramadan en comparant ses démêlés judiciaires à l'affaire Dreyfus, mais en pire, on peut se poser des questions sur la volonté généraliste du dit parti.
Najim Azergui.
Bon, je vais essayer de répondre parce que je vois que déjà j'ai quelqu'un qui scrute apparemment.
Ah bah ça c'est quand même la moindre des choses.
Alors ce qui serait bien, c'est de placer les choses dans leur contexte et non pas de les sortir de leur contexte. Et je suis un peu là pour y répondre. Alors je sais que on a essayé de réduire, et c'est pas aujourd'hui hein, par le biais de Jean-Pierre, mais on a essayé de réduire l'UDMF à des revendications extrêmement communautaires, à savoir le halal, la finance islamique, le fait d'imposer même la langue arabe à l'école, et sur des sujets comme ça. Donc on a vraiment cloisonné le débat sur ces trois thématiques. Et effectivement, je pense que l'ensemble des Français qui entendent ça, ils se disent, bah oui, j'ai face à moi un parti extrêmement communautaire. Sauf que, sorti de leur contexte, on entend ça. Nous, en fin de compte, à chaque fois qu'on nous a posé des questions, vous avez parlé tout à l'heure du volet des européennes et du volet national, il y a effectivement quelques volets qui parlent de ces questions-là. Et pourquoi on parle de ces questions-là? C'est parce que tout simplement, on ne se censure sur aucun sujet. Et on nous a parlé, par exemple, du halal. Et moi, je me rappelle qu'en France, il y a pas très longtemps, lorsque, par exemple, je parle de la restauration Quick, notamment, qui voulait imposer un label halal. Je sais pas si vous vous rappelez, tollée qui a eu lieu, par qui? Par nos hommes politiques. Donc on a eu des hommes politiques, donc on était vraiment sur un terrain purement politique, où on a commencé à crier à la censure, d'accord, au fait effectivement d'interdire une pratique commerciale. Il n'y a pas très longtemps encore, je me souviens, avec Decathlon, qui lançait une gamme de hijab running, et j'ai entendu la même chose, une grosse partie de la classe politique qui s'était insurgée en voulant boycotter une marque française.
Il y a eu le débat sur le burkini aussi.
Exactement. Donc finalement, on voit bien qu'on est dans une hystérisation effectivement des débats. Et clairement, nous, notre position, c'est clairement de ne pas l'interdire, non, et de ne pas non plus en faire la promotion. Mais en tous les cas, ça semble évident que s'il y a un créneau, s'il y a un marché qui se peaufine, on ne s'interdira pas justement à le stimuler au même titre que par exemple le bio, qui est également une communauté de consommateurs.
Effectivement, on ne peut pas comparer l'islam, la communauté de l'islam, à la communauté bio aussi.
Je parle de consommateurs là. Là, ça n'a rien à voir. C'est là, je parle de la grande industrie.
C'est le volet économique.
Ouais, exactement. Donc l'industrie qui décide effectivement d'avoir une niche de commerciale, c'est clairement pas aux politiques de censurer ça, ou même de justement d'engager des dépenses là-dessus. Pour la finance islamique, c'est pareil. On nous a parlé de la finance islamique, alors qu'il faut quand même rappeler qu'en 2009, Christine Lagarde, ministre de l'économie, avait instauré la finance islamique en France. Donc, en commençant par Strasbourg et aujourd'hui par Dauphine. Donc, vous imaginez si c'était une élue de l'UDMF qui avait mis cette proposition-là et qui a mis en place la finance islamique en France, la tollée que ça aurait à avoir. Donc, clairement, parce qu'il y a le mot musulman, alors il faudrait que nous, on s'interdit sur ces sujets-là et sur ces débats-là. Eh ben, clairement pas. Donc, effectivement, on y a parlé, effectivement. C'est une finance éthique qu'il faut étudier, au même titre que toutes les autres finances sont également étudiées. Mais réduire l'UDMF uniquement sur ces volets-là, comme ce qui vient d'être fait, alors que tout à l'heure, on a parlé quand même de beaucoup d'autres volets, je trouve que c'est un peu une malhonnêteté intellectuelle.
Bon, certains hommes politiques, je rebondis sur ce qui a été dit, certains hommes politiques veulent interdire ces listes communautaires. Mais moi, j'ai envie de dire, de quoi parle-t-on? Est-ce qu'on parle des seules listes religieuses ou autres? Parce qu'il y a aussi des partis comme chasse, pêche et nature. Il y a aussi, vous parliez du parti de Christine Boutin, qui devrait également être... Voilà, qui devrait être ciblé.
Les démocrates musulmans. Et bien, sans se regarder eux-mêmes, en étant
Permettez-moi de continuer. Permettez-moi de continuer. Et par rapport à ce que dit Najib Azergui, même si, en effet, il dit, tout comme le parti Égalité Justice, vous en parliez tout à l'heure, qui est d'origine, enfin, qui a des origines, j'allais dire, franco-turques, eh ben, bien sûr qu'ils vont dire qu'ils sont des partis qui défendent la République, qui défendent l'intérêt général, le progrès collectif. Mais je suis désolée, et là je rebondis sur ce qu'a dit Jean-Pierre Sakoun, moi ce qui m'interpelle, c'est qu'ils encouragent la finance islamique, qu'ils veulent que la France devienne le leader mondial des produits halal, parce que je me suis quand même intéressée à la question moi aussi. Ils veulent revenir sur la loi du 15 mars 2004 qui interdit les signes ostensibles à l'école. Je suis désolée, c'est une liste communautaire. Pourquoi je dis tout ça aussi? La bataille, elle sera pas juridique, elle sera politique. Absolument. Parce qu'on sait, les hommes politiques qui promettent d'interdire ces listes, ils se moquent des gens, parce que juridiquement, vous ne pouvez pas les interdire. Par contre, le combat, il est avant tout politique, programme contre-programme. Et moi, j'ai l'espoir, vraiment, que un certain nombre de nos concitoyens considèrent, comme ce que dit l'article 1 de la Constitution de 1958, que la République est une et indivisible. Et oui, les particularismes n'ont pas leur place au sein de notre République.
Najib Azergui, ensuite Jean-Pierre Sakoun.
Je vais juste rebondir par rapport à ce qu'il vient de dire.
Tout le monde rebondit, j'adore cette expression.
Bien, là, je suis un peu forcé, parce qu'il y a des choses que je peux difficilement laisser passer, surtout par rapport aux auditeurs qui nous écoutent. Donc, le fait d'essentialiser l'UDMF à un certain discours, je pense que je suis là pour déconstruire un peu ça, et c'est bien de me laisser la parole là-dessus. J'ai entendu parler que l'UDMF voulait revenir sur la loi de 2004, et ça, c'est un débat surtout sur lequel je voudrais insister aujourd'hui. Clairement, pour moi, ce débat-là, qui a été mené en 2003 avec la commission Stasi, qui a occupé l'espace public pendant des mois et des mois, et qui a finalement amené un débat extrêmement toxique, qui a été amplifié à chaque autre élection dans notre pays, a tout simplement eu comme effet pervers de montrer aux Français qu'il y avait un problème par rapport justement à ces femmes et qui voulaient porter le voile déjà, et puis que c'était un danger par rapport à la République. Et cette idée-là, même si c'était pas le départ du sujet, et ben il a fait son bout de chemin, et aujourd'hui effectivement on a un rejet de plus en plus assumé envers notamment les mamans qui porteraient le voile. Et puis il y a effectivement un raccourci
qui est vécu par certains comme un acte de prosélytisme qui porterait atteinte à la laïcité de
l'État. Et on l'a même récemment assimilé aux attentats terroristes. Donc le fait de dire c'est pas admissible par rapport à ce qu'on a subi depuis 2015 comme attentat. Donc on fait directement le lien avec ces mamans qui portent le voile et des actes barbares. Donc ça, c'est important. Moi, ce que je dis simplement dans le débat qui est le mien et le débat public, c'est que clairement aujourd'hui, déjà, l'UDMF n'a pas la capacité de pouvoir abroger une loi qui a été votée en 2004, puisqu'on n'est pas encore présent dans les bancs du Sénat. Mais en plus de ça, ça aurait quoi comme effet ? Ça montrerait tout simplement aux Français qui ne sont pas prêts, puisqu'on a quand même conditionné les Français à ce qu'ils nous disent que cette loi-là, ils l'approuvent. Mais clairement, il y a eu un travail, un matraquage qui a fait que justement, on a décidé, en mettant à la une certains intellectuels zélés qui sont montés au créneau, qu'effectivement, il fallait qu'on puisse légiférer. Et aujourd'hui, on a à peu près la même dynamique avec les mamans qui porteraient le voile à l'école de la République. Et donc, à un moment donné, ce que moi je veux, c'est justement travailler sur les consciences, donc faire un travail de pédagogie, pour montrer que simplement, ce qu'on vient de se dire là aujourd'hui, le communautarisme, c'est quoi ? C'est le fait, effectivement, que déjà, des personnes ne se retrouvent pas repliées envers elles-mêmes, d'accord ? Ne se retrouvent pas dans des écoles confessionnelles, sauf que, à partir du moment où on criminalise une langue comme la langue arabe, et que aujourd'hui pour l'apprendre, on est obligé d'aller dans...
On criminalise vraiment la langue arabe ?
En tout cas, dans le secondaire, vous avez constaté qu'elle n'y est pas. D'accord ? Donc ça veut dire qu'un enfant qui veut apprendre... Un enfant qui veut apprendre au collège, alors les options, elles sont pas partout déjà, mais qui veut apprendre la langue arabe, il est obligé d'aller dans des écoles confessionnelles. Une jeune fille qui veut porter le voile au lycée, elle est obligée d'aller dans des écoles confessionnelles. Donc... moi, je vous dis un exemple flagrant. Dans le 93, notamment, vous avez dans les écoles de la République, dans les cantines de la République, vous avez ce qu'on appelle les sans-porcs. Donc, on leur donne un petit badge rouge. Et puis, ils mangent entre eux. Donc, complètement coupés du reste. Ça, c'est une réalité qu'il y a aujourd'hui, dans certains endroits, notamment dans le 93.
Peut-être qu'ils n'ont pas envie de manger avec ceux qui mangent du porc.
C'est l'éducation qui...
Ils sont à une autre table, quoi. Ils ne sont pas dans une cellule de haute sécurité.
Dans l'école de la République, l'école du vivre ensemble.
De temps en temps. Et on a beaucoup de choses à dire sur les questions, particulièrement sur l'école. Si on vient sur la question de l'école, alors l'école en France, l'école de la République, c'est l'école qui forme le citoyen, c'est le lieu d'une neutralité religieuse renforcée parce qu'il y a des consciences en formation. Donc ça n'est pas l'école où de méchants complotistes qui ont fait de l'école une sorte de lieu de l'hystérisation contre le voile, c'est inimaginable de penser que des parents ont envoyé des enfants mineurs au collège, je parle même pas du lycée, portant un voile. C'est ça qui est inimaginable. Et la réaction de la commission Stasi, je vous le rappelle, commission qui, lorsqu'elle s'est réunie en 2003, était massivement favorable à l'autorisation du voile dans les établissements scolaires, a été renversé, d'une part par l'intervention de gens comme Henri Peña-Ruiz, d'autre part par l'intervention de ces dizaines de jeunes filles qui sont venues témoigner en disant « surtout n'autorisez pas le voile parce que sinon, pour nous, ce sera obligatoire ». C'est ça qui a fait que la commission s'est retournée et que finalement, elle a voté contre, à l'unanimité moins une voix qu'on pouvait attendre, celle de Jean Bobéreau. En ce qui concerne le voile pour, non pas les mamans voilées avec des circonflexes partout, mais des parents accompagnateurs de classe hors les murs, nous demandons effectivement une législation dans ce domaine, parce que dans ce domaine,
c'est autorisé. Hein. Oui.
Dans la neutralité religieuse renforcée. Nous sommes exactement, en ce qui concerne le voile des parents, ou le signe, les portes de signes religieux et politiques et convictionnels des parents, dans la même situation que celle dans laquelle nous sommes trouvés entre 89 et 2004, sur le port des signes religieux par les élèves, dans la confusion la plus totale. Encore un tout petit mot sur ce sujet-là.
Vous souhaitez également l'interdiction dans les universités pour ces jeunes filles qui portent le voile.
Pas du tout. L'université est autre chose. On pourrait se poser la question sur ce qui se passe dans les cours.
Il vient de contredire tout ce qu'il vient de dire.
On pourrait se poser la question sur
ce...
Non, je ne vous ai pas interrompu, monsieur. On pourrait se poser la question sur ce qui se passe dans les salles de classe. Mais c'est tout à fait secondaire. La question, ce sont les esprits en formation, c'est les moins de 18 ans, c'est l'école primaire, le collège, le lycée. Quand on voit des enfants de 6 ans, de 7 ans, de 8 ans voilés dans les rues aujourd'hui, heureusement que c'est interdit à l'école.
Raphaël Dieugier reprendra la parole après justement la pause musicale. Suffit de nageoire, en effet. Ils sont 7 musiciens texans à sortir les griffes d'une soul psychédélique. Black Pumas sur France Inter.
I'm
c'est signé Black Puma en concert notamment à la Boule Noire à Paris. Ce sera le 8 novembre, la programmation Pyromane ce soir de Jean-Baptiste Audibert.
L'heure est grave. Il est temps de se lever et de clamer tout haut « Stop à l'islamophobie ». Il n'y a pas de grand remplacement, mais bien un grand aveuglement. Il est temps d'agir pour ne plus subir.
Le nouveau rendez-vous.
L'Union des démocrates musulmans français a obtenu 0,13% des voix lors des élections européennes.
Mais dans certaines villes, cette liste a concurrencé les partis traditionnels. C'est le cas dans le Nord, à Maubeuge.
Laurent Goumard.
Plus de 6% des voix, avec des pointes à 40% dans certains quartiers.
Sur France Inter.
Parti communautaire, une menace, un fléau ou une chance pour le jeu démocratique en France? On en parle avec nos invités. Raphaël Leger, vous êtes philosophe. Je vous ai coupé juste au moment où vous vouliez intervenir, mais sur quelle question précisément?
Je voulais intervenir sur la question de la confusion qui règne sur les termes, sur les mots, sur les concepts dans ce débat, probablement aveuglé par nos propres fantasmes et les fantasmes de part et d'autre, hein, d'ailleurs. Je prends l'exemple de ce mot justement de communautarisme, et on pourrait dire la même chose pour le mot de prosélytisme. Le prosélytisme, ce n'est pas interdit. Il n'y a pas de politique sans prosélytisme. On pense avoir la vérité et on veut la diffuser. Ce qui est problématique, c'est le prosélytisme violent, c'est-à-dire de vouloir porter atteinte à l'intégrité physique et morale d'autrui. Communautarisme, c'est la même chose. Là, on a trois niveaux dans le communautarisme. Alors, j'essaye d'être clair, puisque j'ai été accusé de pas être clair, ce qui est rare. D'habitude, j'essaye d'être clair. Le premier point, c'est communautarisme, ça veut juste dire que c'est une communauté. C'est la notion neutre de communauté, mais on vit tous en communauté. Le deuxième, lorsqu'on parle de communautarisme, ça veut dire qu'il y a une tendance à se retirer de la société, et là, on pourrait dire que c'est problématique. C'est problématique, mais c'est pas interdit.
C'est justement ce qui est pointé par les politiques aujourd'hui.
Le troisième niveau, c'est encore autre chose. C'est le communautarisme, non pas seulement sur le fait de se retirer, en quelque sorte, ce qui est problématique, je vous dis, et qu'il faudrait peut-être, mais là, c'est par l'éducation, c'est par un travail social. Le troisième niveau, c'est le communautarisme au sens violent du terme, c'est-à-dire vouloir imposer les règles régissant sa communauté. Par exemple, si, imagine, un parti musulman voulait imposer la charia à tout le monde de façon très spécifique, etc. Donc moi, je pense qu'il faut être très clair et pas se laisser aller dans des fantasmes qui souvent masquent une sorte de racisme culturel qui prend le parce que c'est facile de dire ah c'est l'islam, donc ceux qui sont de conscience de gauche qui se retrouvent disent ah c'est parce que c'est contre la modernité, l'égalité des femmes,
forcément, etc. Être contre la communauté, ça serait être islamophobe.
Je n'ai pas dit ça du tout. J'ai dit, et deuxièmement, ceux qui disent qu'ils sont plutôt là, l'islam c'est l'image de du sarrasin qui serait monté jusqu'à Poitiers, non mais ça Marine Le Pen
là,
utilise,
vous
les catholiques,
un peu tout, ouais, là, donc.
non, et donc on mêle les deux notions et on voit l'islam comme étant l'ennemi. Et donc, dès qu'on prononce le mot islam, et tout signe musulman va devenir un signe de, entre guillemets, communautarisme, mais communautarisme guerrier, violent. Alors que je pense qu'il faut, lorsqu'on est sérieux, et lorsqu'on est vraiment républicain, mesurer ses propos et regarder point par point si ça pose un problème réel à ces valeurs de la République, mais au sens concret du terme. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a atteinte à l'intégrité physique et morale? Parce que n'oublions pas que nous sommes encore aujourd'hui, j'espère qu'on le restera, dans une société libérale au sens politique, au sens de Tocqueville, au sens du XVIIIe siècle. Et ça, aujourd'hui, on est peut-être dans une des crises les plus profondes qu'aient connues les sociétés libérales depuis peut-être un siècle. Et il faudrait pas que ça se fasse, qu'on mette en péril ces libertés-là au nom de fantasmes irréalistes, en fait.
Et pourquoi vous me regardez comme ça?
Je vous regarde, Christophe Bourcelli.
Parce que moi, je vois ce que vous dites, je pense à Emmanuel Macron, Raphaël Leger, qui dit le communautarisme, c'est la volonté de faire sécession dans la République en la dévoyant, tout simplement.
C'est ce retrait dont vous parliez, justement,
dans le
deuxième
point.
C'est
pour ça qu'il y a plusieurs définitions possibles, et qu'il faut pas mélanger les définitions, parce que c'est comme ça qu'on se permet de dire un peu n'importe quoi.
Mais Najwa El Haïté, en défendant la laïcité, est-ce que finalement on mène pas aujourd'hui un combat perdu d'avance dans une société qui, par en bas, s'est déjà communautarisée?
Non, je ne crois pas du tout au fait que c'est un combat perdu d'avance. Hein. Heureusement, la majeure partie de nos concitoyens sont profondément attachés à la laïcité.
On l'a vu avec un récent sondage.
Moi, j'aimerais rebondir sur ce qui a été dit sur la loi du 15 mars 2004, donc à l'école, donc interdisant le port de signes ostensibles dans les écoles publiques. Il ne s'agit pas d'interdire le port de signes religieux. Il s'agit d'imposer une discrétion. C'est fondamental. On demande à l'élève d'être discret dans le port du signe religieux, c'est-à-dire un élève
David,
peut prendre voilà une petite chaîne, une petite croix. On demande une discrétion. Et moi, contrairement à Najib Azergui, je salue l'adoption de cette loi parce qu'il s'agit de sanctuariser un lieu où on apprend à lire, à écrire, donc les fondamentaux, mais aussi à construire le citoyen de demain, et loin des influences politiques et religieuses. Et je pense que c'est fondamental. Là où je rejoindrai à moitié Najib Azergui, c'est concernant le voile. Le voile considéré comme une prescription religieuse, moi je ne le considère pas comme une prescription religieuse. Vous voyez, les Français de confession musulmane ont différentes interprétations des textes religieux. Pour ma part, je ne le considère pas comme une prescription religieuse, mais soit. Il y en a qui le considèrent tel quel. C'est pas une atteinte à la laïcité, le voile, pour moi. C'est plus une atteinte à l'égalité entre les hommes et les femmes. Vous avez quand même une histoire de France où la place du féminisme a occupé quand même et occupe aujourd'hui une place importante. Vous avez dans ce pays des femmes qui se sont battues pour être délivrées du corset, qui se sont battues pour porter le pantalon. Eh bien, moi, je comprends parfaitement que des femmes puissent être heurtées par une multiplication, hein, je parle d'une multiplication du port du voile, et surtout quand il est imposé, puisque c'est une forme de violence quand il est imposé. Et on ne peut pas nier que dans certains quartiers, et j'en connais pour avoir discuté avec certaines d'entre elles, où il y a des femmes dans certains quartiers qui ne peuvent pas sortir, j'allais dire, de manière, elles ne peuvent pas s'habiller comme elles le veulent. Ça, c'est une réalité. Donc on ne peut pas être dans le déni par rapport à cette réalité-là. Donc moi, je pense que, voilà, les mots ont un sens et que le voile, c'est plus une atteinte à l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il faut,
et
il
non,
faut
pas également
poser une question à Najib Azergui aussi, pour essayer de faire avancer ce débat. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est un peu le non-dit de ce débat? Est-ce que la violence djihadiste, la violence islamiste, pardon, n'a pas contribué à isoler les musulmans? Est-ce que finalement, lorsque vous vous plaignez de cette impression que vous dites la langue arabe est criminalisée, bon c'est un peu exagéré, mais est-ce que vous n'avez pas le sentiment que le non-dit c'est ça, c'est le fait qu'il y a eu ces épouvantables attentats et qu'au fond toute la communauté musulmane en a payé le prix d'une certaine façon?
Ah bah clairement, aujourd'hui j'entends beaucoup de personnes dire on n'a pas entendu notamment les musulmans, donc comme quoi on essaie quand même de les ensocialiser quand même pas mal. Moi je me souviens de après les attentats de Charlie Hebdo. Lorsqu'il y avait eu ce grand rassemblement qui avait été fait à Paris.
Tout à fait.
On a été nombreux à se rassembler par rapport à cette barbarie qui venait de frapper
tout
le monde.
Vous y étiez-vous ?
Moi, j'y étais avec mes enfants. Et j'ai entendu juste après des personnes dire, on n'a pas vu les musulmans.
On ne les a pas entendus.
On ne les a pas entendus dans ce rassemblement-là. Donc, on est dans un fantasme. Je pense qu'ils auraient voulu voir des gars en mode salaf avec des gandouras, des djellabas, etc., avec des drapeaux, dire, on est des musulmans et on condamne ça. Moi, j'y étais et j'ai vu énormément de personnes venir de toute la diversité de la société française se réunir. Donc ça, c'est un des aspects que je peux répondre. Après, encore une fois, ce que j'ai entendu par rapport, encore une fois, au voile, alors faudrait pas réduire l'UDMF au voile, mais encore une fois, moi, ce qui m'affole dans une société de droit où normalement chaque citoyen et citoyenne est censé s'habiller comme elle l'entend, avoir un jugement de valeur sur ces personnes-là, moi, ça me pose problème.
Déjà. C'est pas un jugement de valeur. Quand ce voile est imposé, ça devient un problème.
Alors, lorsqu'on dit que toutes les femmes portent tant le voile, ont été imposées, c'est un peu...
J'ai pas dit toutes les femmes.
Dans certains quartiers, moi je vais faire un parallèle justement avec dans certains quartiers, pour montrer justement à quel point on est loin quand même de la réalité.
C'est faux, attendez, je ne pas dire
dans certains quartiers, vous avez... Alors, dans certains quartiers, vous avez effectivement des femmes qui portent le voile. Et il est facile et aisé quand même de se rendre compte que la plupart de ces jeunes filles, dans la famille, dans leur famille, bah, y a beaucoup de personnes qui ne le portent pas, donc au sein même de leur foyer. Donc ce qui veut dire que quand même, on est dans un paradoxe. Ça veut dire que si ces femmes-là étaient obligées de porter le voile, et si elles avaient une pression, comment se fait-elle?
Mais chacun pourra se renvoyer des familles ou des quartiers.
Comment se fait-il que dans la même famille, vous allez avoir des filles qui portent le voile et qui le portent librement, et comment se fait-il qu'elles ont une sœur, une mère, qu'ils ne le portent pas? Donc là, on est vraiment, pour moi, dans un procédé d'intention qui est pas très simple.
Raphaël Lieuger. On va pas s'en sortir si on, parce que en fait, on voit bien qu'il y a un problème cognitif vis-à-vis des signes, vis-à-vis de l'islam. Et ça a été dit, je vous donne un premier exemple. Un exemple, l'affaire des caricatures. L'affaire des caricatures, il y a eu une pétition qui a été faite au Danemark par des intellectuels musulmans et des citoyens musulmans en disant « Les caricatures nous choquent, en revanche, nous défendons les journaux qui les ont publiés parce que nous sommes défenseurs de la liberté d'expression. »
Mais là, vous allez jusqu'au Danemark,
Si. Mais qui en a parlé en France? C'est-à-dire que personne ne l'a vu. C'est pareil que quand les musulmans manifestent, on ne le voit pas aussi. On ne veut pas le voir. Hier, par exemple, il y a eu aussi cet attentat contre une mosquée. Il n'y a pas eu une seule une de journal ce matin sur le sujet. Une seule une de journal sur le sujet. Ça veut dire qu'on est dans une vision qui est une vision elle-même discriminatoire au sens cognitif du terme. Ça aussi, il faudrait le réfléchir.
Jean-Pierre Sacoun.
Pour une fois, je suis d'accord avec M. Azéry sur un
point. Ça sert à ça, un débat. C'est l'école des femmes. Tout le monde est d'accord.
Ce fait de réclamer aux musulmans de se prononcer en tant que musulmans sur les attentats. Non, ce sont des citoyens français, ils se prononcent en tant que citoyens français. Et quant à nos hommes politiques ou nos femmes politiques, c'est vers eux que je me tourne dans cette affaire-là. Parce que si ils n'avaient pas passé depuis des années leur temps à refuser de nommer les choses, comme enfin on commence à le faire, c'est-à-dire à bien séparer islamisme ou islam politique des musulmans, alors qu'ils refusaient de le faire jusqu'à présent simplement parce qu'ils écrasent le coup, comme on dit. Eh bien, peut-être que ces confusions ne se feraient pas dans la population. Alors la meilleure solution pour donner à nos concitoyens de culture ou de religion musulmane une place égale à celle de tous les autres dans notre société, c'est peut-être une bonne fois pour toutes de taper du poing sur la table sur tout ce qui concerne les comportements extrémistes et les comportements des salafistes, des frères musulmans et de tous ceux qui sont en train de comploter contre la République. Le jour où nos hommes et femmes politiques feront ça, les musulmans seront enfin libres dans notre pays.
Nazib Bajargui, quelles sont aujourd'hui vos positions quant au procès de Tariq Ramadan, puisque tout à l'heure il en était question?
Alors, moi, clairement, Tariq Ramadan et l'UDMF, moi, je ne connais pas ce monsieur. Hein. Je ne connais ni ce monsieur, je ne suis pas son avocat. J'ai suivi, effectivement, ses mésaventures. Je ne suis pas du tout là pour être son porte-parole. Et je pense que c'est un peu aussi sournois de faire le lien entre Tariq Ramadan, les frères musulmans et l'UDMF.
Vous savez pourquoi je fais le lien? Parce que tout à l'heure, il y a eu des questions.
Voilà. Et je pense que le monsieur fait effectivement référence à la Gazette satirique, donc, qui est complètement en parallèle avec l'UDMF.
Vous éditez une Gazette satirique.
Satirique, tout à fait. Et je pense que si on veut parler sur le terrain politique des idées et des programmes avec une galette satirique, et si on veut nous réduire là-dessus, le procès d'intention, il est pas très sain. Et encore une fois, je ne suis pas le porte-parole ni l'avocat de Tariq Ramadan. Je pense que vous pouvez l'inviter, il pourra répondre à toutes vos questions. Moi, je ne suis pas du tout légitime là-dessus. Et c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à Tariq Ramadan.
Et ce sera bien le mot de la fin de ce débat. Merci à vous tous.
Tariq.
Vous restez.
C'est vous que je regarde.
Vous êtes très inquiétant parfois, hein, Christophe Mourcelier. On va retourner du côté de la musique, mais cette fois-ci, elle est en live avec les invités de Marion Guilbeault. Vous restez avec nous, bien sûr. All right, let's
have a little rumble at the Ritz tonight. Le nouveau rendez-vous sur France Inter.
Justement, on va revenir peut-être sur les paroles de cette chanson, parce qu'il y avait un débat tout à l'heure entre vous.
Il n'y a aucun débat, c'est mon camarade, le vieux monde est devant toi.
Bien sûr, Alex, on va commencer par lever le doute là-dessus, Alex Baupin.
Alex Baupin, notre invité.
Qu'est-ce que vous pouvez nous répondre là-dessus?
C'est bien évidemment, court camarade, le vieux monde est derrière toi, j'ai repris le slogan originel, je suis désolé Christophe.
Et il a perdu, il y avait un pari.
Un pauvre pari, je ne vous raconte même pas ce que c'était, tellement l'enjeu était petit. Voilà, un petit café, ça sentait le type qui savait qu'il allait perdre, un pari pareil, voilà. Bon, moi, nous, en tout cas, on est ravis de recevoir Alex Baupin, sa communauté, ou plutôt, lui, sa génération, c'est celle des Delerm, des Kerenan, des Albins de la Simone Chéral, Bertrand Belin, une génération qui est aussi sensible à l'écriture à la française, celle des aînés comme Souchon, Dao, Scheller, Bachung, comme Élodie à l'anglaise, celle de la pop des Smiths, de The Cure. Alors les chansons d'Alex Baupin, elles ont souvent été associées à des images, celles du réalisateur Christophe Honoré. Elles ont participé à la création d'un univers artistique très sophistiqué, un mélange de romantisme et de distanciation, de mélancolie, de douce ironie. Alex Baupin a publié au début du mois un nouvel album, Pas plus le jour que la nuit, c'est le sixième, sans compter les collaborations avec l'écrivain Isabelle Monin, les disques écrits pour les autres, le dernier en date, c'était celui de Françoise Fabian. Alors on l'a souvent dépeint, Alex Baupin, comme le chanteur du mois, de l'autobiographie, du sentiment amoureux, et pourtant, il nous avait déjà alerté sur l'état du nous, de notre société, c'était en 2012, avec sa chanson Au départ, une chanson qui était devenue, un peu malgré lui, un peu avec lui, l'hymne de la campagne présidentielle de François Hollande. Alex Baupin, bonsoir. Il y a plusieurs titres sur ce nouvel album qui parlent de l'état du monde, comme Orlando, comme les sirènes, et puis ce court camarade que vous allez jouer. Mais je me demandais s'il y avait eu un événement ou un élément déclencheur pour partir écrire ainsi du côté du collectif.
Oh non, c'était moi. Enfin, le truc, c'était moi. J'écoutais mon dernier album et je me disais que si je voulais me renouveler, il fallait que ça passe par la musique. Donc ça, j'ai fait appel à des producteurs et puis par les textes. Et comme formellement, moi, je reste sur une forme, une prosodie qui est assez classique. Je me disais, c'est peut-être par les thématiques que je vais me renouveler. Donc, parler du monde pour éviter de parler trop de moi. Et je me disais que ce serait peut-être moins triste. Et vu l'état du monde, je pense pas que c'était la meilleure idée que j'ai eue en réalité.
Bon, en tout cas, c'est très réussi. On va écouter Court Camarade, cet extrait de ce nouvel album, Pas plus le jour que la nuit. Alex Baupin en live dans le nouveau rendez-vous, c'est à vous.
Court Camarade, le vieux monde est derrière toi. Les barricades, les voltigeurs et puis quoi? Cours, camarade, les épaves de pavés, les bousculades, les cocktails et puis après. Cours, camarade, le vieux monde sent la poussière. Dernière ruade, et on l'enterre à Nanterre. Cours, camarade, redis-nous ton beau discours sur ton estrade. Le poing levé, le cœur lourd. Camarade, le vieux monde reprend son souffle. Quelques décades, et tu rentres dans ses pantoufles. Cours, camarade, tes affiches et tes slogans, comme tu les brades pour vendre des brosses à dents. Cours, camarade, le vieux monde t'a rattrapé. Il est malade, tout prêt à agoniser. Cours, camarade, comme tu en crèves avec lui. T'as des bandades, comme on en crève aujourd'hui. T'as des bandades, comme on en crève aujourd'hui.
Alex Baupin, elle est belle, hein, cette version. Hein. j'aime beaucoup.
Le monde est devant toi.
Mais non, voilà, non, toujours pas. Toujours pas.
C'est un peu la morale de la chanson.
Non. Alex Baupin, magnifiquement tenté, accompagné par l'indispensable Valentine Duteil au violoncelle et par Antoine Tiburce au clavier. Il va être en concert un peu partout en France. Ça sera le 8 novembre à Floirac. Il y aura Rennes, Saint-Lô, Cluses, l'Olympia à Paris. C'est le 20 novembre, Caluire, avant de repartir sur la route en 2020. Ce sera dès le 18 janvier à Rouen, tournée marathon. La prise de soir ce soir est assurée par le collectif Florent Layani et Nicolas Delmas. Merci beaucoup.
Christophe, en plus on le retrouvera jeudi prochain, le retour d'Alex Baupin dans le NRV. Merci à tous nos invités, merci Jean-Pierre Sakoun, merci Raphaël Liogier. Manifeste métaphysique, c'est aux éditions Les Liens qui Libèrent. Najwa El Haïté, Laïcité et République, considération sur la République française aux éditions L'Harmattan. Et Najib Azergui, on sera attentif aux résultats de l'Union des démocrates musulmans français aux prochaines municipales. Merci à vous quatre.
Merci.
C'était le NRV, première partie. On va se retrouver dans 15 minutes pour le NRV La Suite, pour plus de France Inter. Demain, pas de NRV parce que de 22h à 23h, ce sera le concert double affiche exceptionnel avec Catherine Ringer et Cigarette After Sex. Et puis vous retrouverez le NRV France Inter Plus à 23h pour la suite du portrait de l'espion Gunther Guillaume. En live, Marion donc, jeudi.
On retrouve Alex Baupin, on va pas se priver.
Le NRV, c'est Marion Lelay à la réalisation. Programmation, préparation, Virginie Rouzic et Clémence Diligent. À jeudi, Christophe Bourseiller.
À jeudi.
Rendez-vous.